un jour, la splendeur de la gloire de Jésus-Christ sera reconnue, sera manifeste à tout un chacun. Un jour, tout genou fléchira devant Jésus-Christ. Un jour, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Un jour, toute créature, sur la terre, sous la terre, sur la mer, attribuera la gloire à Jésus-Christ et continuera à le faire à tout jamais. Et entre-temps, pour nous qui reconnaissons déjà que Jésus-Christ est le roi de cet univers, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour nous. Comme nous voyons à la fin de Matthieu 16, le passage qui a été l'objet de la prédication la semaine passée, le disciple de Jésus-Christ doit mourir à lui-même, à l'instar du Christ qui a dû mourir. Nous devons être prêts à tout perdre. Certes, en vue de tout gagner, comme ça a été expliqué la semaine passée, mais pour l'essentiel, la partie « tout gagner » n'arrive pas tout de suite. Et comme Benjamin l'a expliqué la semaine passée, « tout perdre » peut se traduire concrètement ainsi. Subir le rejet de sa propre famille, accepter d'être considéré comme étant un peu bizarre et arriéré parce qu'on s'attache à la Bible, accepter un niveau de vie inférieur à ce qu'on pourrait connaître parce qu'on veut participer financièrement à l'œuvre du Seigneur, accepter de sacrifier certains passe-temps et d'investir dans ce qui a une valeur éternelle, accepter d'entrer dans une lutte quotidienne et sans relâche contre le péché, mettre du côté du temps que l'on avait prévu pour soi afin de prendre soin d'autres personnes de l'Église et pour les aider à grandir dans la foi. Cet été, accepter de tout perdre, mourir à nous-mêmes, ce sera difficile, y compris en vacances. Mais oui, continuellement, les autres avant soi, les autres avant soi à table, les autres avant soi dans le choix du film, les autres avant soi dans le choix de la musique en voiture. C'est lassant de mourir à nous-mêmes jour après jour après jour et dans tout domaine. Nous avons hâte de vivre le moment où la lutte contre le monde, le péché et Satan arrivera à son terme. Vivement le moment où Jésus entrera dans son règne, le moment où la splendeur du règne de Jésus-Christ sera manifeste à tout un chacun. Et si nous pouvions anticiper sur ce moment dès maintenant, rien que l'entrevoir, est-ce que cela n'aiderait pas? Les premiers disciples, eux aussi, ont dû accepter de tout perdre, de mourir à eux-mêmes. Eux aussi avaient hâte de vivre le moment où Jésus entrerait dans son règne, le moment où la splendeur du règne de Jésus-Christ serait manifeste à tout un chacun. Et dans sa sagesse, et dans sa bienveillance, Jésus a expliqué à ses disciples que certains d'entre eux allaient pouvoir goûter à ce règne glorieux, cela de leur vivant. Le chapitre 16 et les versets 27 et 28. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » En l'occurrence, le moment en question tombe à peu près une semaine plus tard. Et c'est ce qui est rapporté dans notre passage. Lisons-le. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu. Et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Le 30 juin, avant d'aller plus loin, je vais prier. Notre Dieu, notre Père, après avoir entendu les Écritures, nous voudrions venir au devant de toi pour te demander de nous accorder une bonne compréhension de ce passage. Pensons à ce que nous lisons dans Ésaïe 66. Voici sur qui je porterai mes regards, sur le pauvre qui a l'esprit abattu, qui tremble à ma parole. Et notre Dieu, André, nous te remercions pour le privilège que nous avons maintenant de nous mettre à l'écoute de cette parole. Mais nous ne voudrions pas être, comme nous le lisons dans Jacques 1, simplement contents d'écouter cette parole et en nous trompant nous-mêmes. Donne-nous de trembler à cette parole, au point de mettre cette parole en pratique, au point de vivre de façon conforme au passage que nous venons de lire. Accorde-nous cette grâce pour ta seule gloire. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Je ne l'ai pas ici, mais je pense que vous avez un plan du message si vous voulez suivre. Le 30 juin 2017, je suis assis avec mes collègues de l'Institut biblique dans un café au Petit Sablon en centre-ville. L'un de mes collègues, Paul Évry, certains d'entre vous connaissent Paul, il se penche en avant pour me dire « Je vois que Sa Majesté nous a rejoints. » Mais c'est quoi cette blague? Mais en effet, la voici. Mathilde, roi des Belges, juste derrière moi, assise à la table à côté. Paul m'a prise en photo, la reine juste derrière moi, donc on a la preuve photographique. Mais je dois avouer quelque chose. Si Paul n'avait pas signalé que la reine était là, je ne l'aurais probablement pas remarqué. Il y a un sens dans lequel la reine, c'est un être humain comme les autres. Elle était chic, mais elle ne portait pas de couronne et son garde du corps n'était pas immédiatement à côté d'elle. Il n'y avait pas beaucoup de signes, il fallait pouvoir la repérer, quoi. Et si ça avait été Jésus, assis à la table derrière moi, si ce type de café avait existé à l'époque, sa venue sur Terre, si j'avais été là en Palestine, etc. Il est vrai que les foules l'auraient sans doute trouvé, car ses enseignements et ses guérisons, ses miracles étaient extraordinaires. Mais du point de vue de l'apparence, c'est un être humain. Il était comme les autres êtres humains durant sa vie sur Terre. Certes, divin aussi, mais il ne portait pas de couronne et il n'y avait pas de moyens physiques permettant de constater qu'il était Dieu. Il y a quelques mois, j'ai lu dans un livre de théologie concernant le côté physique de Jésus que, je cite, « Par sa forme et ses proportions, le monde n'a probablement jamais vu son pareil. » Moi, je ne crois pas ça. Je ne vois pas de fondement biblique à cela. En tant qu'être humain, il est devenu comme nous à tous égards, lisons-nous dans l'Épître aux Hébreux, quoique sans péché. Nous lisons même dans Ésaïe 53 qu'il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Sur la base du seul critère de l'apparence, on n'aurait pas remarqué que c'était Jésus à la table d'à côté, en quelque sorte. Mais il y a eu un moment qui a fait exception. Et trois personnes ont été invitées à témoigner de ce moment exceptionnel. Pierre, Jacques et Jean, verset 1er de notre passage. Tous trois ont pu suivre Jésus à l'écart sur une haute montagne. Ces trois disciples sont passés par une expérience qui les a marqués. Pierre a parlé de ça plus tard. Il a souligné dans sa seconde lettre que ce n'était pas une fable, ce n'était pas un mythe, ce n'était pas une histoire montée de toutes pièces. Il y avait ces trois témoins oculaires. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Sur cette montagne, l'apparence de Jésus a été transformée. Vous voyez le verset 2, les deux aspects de cette transformation qui sont mis en évidence. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Nous n'avons pas besoin de nous rendre dans un musée pour trouver un tableau de Raphaël ou d'un autre peintre qui aurait représenté cette scène ici. La parole de Dieu est suffisante, alors qu'un tableau risque d'induire en erreur. Mais nous avons besoin de nous arrêter sur ces deux aspects de l'apparence de Jésus rapportés ici. Et si cela peut nous aider à nous figurer ce qui se passe, fermons les yeux. figurons-nous cette transformation au niveau du visage qui resplendit maintenant, cette transformation au niveau des vêtements qui sont maintenant blancs comme la lumière. C'est fort lumineux, cette scène. Peut-être que Pierre, Jacques et Jean ont dû se protéger les yeux comme ça, tellement ils risquent d'avoir été éblouis par la lumière, à la fois pour ce qui est du visage et pour ce qui est des vêtements. La lumière est soulignée dans le texte. Même la nuée qui va arriver un peu plus tard, verset 5, est décrite elle aussi comme étant lumineuse. Quelle est la signification de tout cela? Eh bien, vous vous souvenez peut-être de ce que dans l'Ancien Testament, le visage de quelqu'un d'autre a rayonné à un moment donné. Et cela grâce à une expérience sur une montagne. Moïse a passé du temps sur le mont Sinaï et en descendant, les uns et les autres ont remarqué que la peau de son visage rayonnait. C'est dans Exode 34, si vous voulez vérifier cela plus tard. Pourquoi son visage rayonnait-il? Parce qu'il avait parlé avec Dieu, lisons-nous dans ce chapitre-là. L'apôtre Paul commentera le visage rayonnant de Moïse. Il parlera de la gloire de son visage. Qu'en est-il dans notre passage, Matthieu 17, lorsque l'apparence de Jésus est transformée? Certes, c'est Dieu le Père qui orchestre cela. Pierre va préciser cela plus tard, mais le visage resplendissant de Jésus ne dépend pas d'un entretien avec son Père. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu, lisons-nous dans Hébreux 1. Et Pierre, Jacques et Jean ont pu percevoir la réalité de cette gloire sur la montagne. Et les vêtements blancs comme la lumière, cela rappelle l'apparence de Dieu dans Daniel 7, l'ancien des jours dans Daniel 7, dont le vêtement était blanc comme la neige. Or, l'ancien des jours donne la gloire à un fils de l'homme dans ce passage-là. Il donne la domination, la gloire et le règne à ce fils de l'homme, dont le règne sera absolu et éternel. Jésus est ce Fils de l'homme. Et Jésus lui-même emploiera ce titre Fils de l'homme pour parler de lui-même. Il le fait deux fois, rien que dans notre passage. Fils de l'homme, avec cette expression, il ne faudrait pas simplement avoir en tête un homme, mais le roi de l'univers, celui qui régnera de façon total, universel et éternel. Et la nuée, qui arrivera un peu plus tard, aussi lumineuse, verset 5, qu'est-ce qu'elle connote? Eh bien, pensons à nouveau à Moïse sur la montagne. Je vais lire dans Exode 24. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée. Et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. C'est cette gloire qui a conduit les Israélites dans le désert, qui a rempli le tabernacle, qui a rempli le temple. Juste un autre car on pourrait multiplier les lectures, mais juste encore une pour illustrer ce phénomène. C'est le moment de la dédicace du temple, je lis dans 1 Roi 8. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et donc, si ça aide, fermons les yeux et figurons-nous cette gloire, le visage qui est resplendissant comme le soleil, les vêtements blancs comme la lumière, la nuée lumineuse qui va bientôt les couvrir. Nous pouvons ainsi entrevoir avec émerveillement la gloire de notre roi divin. Pierre précisera plus tard qu'à cet instant, il a vu de ses propres yeux la majesté de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans cet épisode, je cite, « Le Seigneur Jésus-Christ a reçu de Dieu le Père honneur et gloire », expliquera-t-il. Voici donc un avant-goût de ce que ça donnera pour Jésus une fois sa mission sur terre accomplie. Dans cet épisode sur la montagne, un coin du voile est soulevé. Jean est l'un des autres témoins oculaires sur la montagne. Et lui aura plus tard une vision du Jésus ressuscité. Et Jean précisera par rapport à cette vision du Jésus ressuscité que son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Ça, c'est Apocalypse 1, si vous voulez vérifier cela par la suite. Mais le Jésus ressuscité, c'est pour plus tard, ici, avant l'heure en quelque sorte. Les trois disciples peuvent entrevoir comment sera leur roi dans toute sa splendeur. Après avoir entendu parler de la mort de Jésus et de la mort à eux-mêmes, juste avant, normalement, cette scène devrait les aider, les rassurer, les fortifier dans la poursuite de la mort à eux-mêmes. C'est semblable pour nous. C'est comme si un soldat lambda, au moment de partir au combat, au moment de sortir de sa tranchée, recevait une vision du grand général de l'armée ou de son roi victorieux après la bataille. Ah, victoire ! Vous voyez que nous pouvons être rassurés alors que nous devons mourir à nous-mêmes et que c'est dur, rassurer car notre maître vient dans toute sa gloire. Matthieu 16, verset 47. Matthieu 16, verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Doit venir dans la gloire. Et pas simplement à ce moment-là pour trois personnes, car tout œil le verra, lisons-nous dans Apocalypse 1. Ici, c'est juste un avant-goût. Mais même ici, nous ne devrions pas sous-estimer la gloire. Il est vrai que nous pouvons avoir des questions concernant ces deux autres personnages qui sont là, Moïse et Élie, verset 3. Comment Pierre, Jacques et Jean ont pu savoir que c'était Moïse et Élie? Comment ils ont pu percevoir que c'était bien Moïse et Élie sur la montagne? Nous n'avons pas toutes les réponses, toutes les questions que nous pourrions poser par rapport à cet épisode. Mais voici ce qui est significatif. Il ne nous est pas dit les concernant. Il ne nous est pas dit les concernant que leur visage brillait et que leurs vêtements étaient blancs comme la lumière. Moïse et Élie ne parlent même pas. Même Pierre ne leur adresse pas la parole. Et donc on commence à comprendre. On ne peut pas placer Moïse et Élie sur un pied d'égalité avec Jésus. Ce qui fait que, semble-t-il, Pierre commet un impair, n'est-ce pas, dans le verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Je ne sais pas exactement ce qu'il a en tête là, en proposant de dresser ses tentes, prolonger ses moments sur la montagne certainement, alors qu'il n'est question que d'un avant-goût de la gloire. Ce n'est pas le moment où la gloire viendra en permanence, non. Qu'est-ce qu'il a en tête là? Rendre service à ces trois personnages certainement, une tente pour chacun. Et c'est surtout cela qui est problématique, n'est-ce pas? Car la présence de Moïse et d'Élie, bien comprise, ne fait que mettre en relief la suprématie de Jésus. Et si Pierre n'arrive pas à saisir cela parce qu'il voit, il va devoir l'entendre de ses oreilles. Je ne sais pas si vous avez vécu un son et lumière, peut-être à la Grande Place de Bruxelles, juste à l'approche de Noël. Mais on voit dans cet épisode que cela percute davantage lorsque le son s'ajoute à la lumière. Oui, ce n'est pas l'apparence de Jésus qui est l'aspect le plus marquant de ce qui se passe sur la montagne. Car alors que Pierre est toujours en train de prendre la parole, il est interrompu par l'arrivée de la nuée et par la voix qui se fait entendre depuis la nuée, la voix de Dieu le Père, verset 5. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Cette voix assommante. Pierre, Jacques et Jean se trouvent maintenant par terre, sur leur face, verset 6, saisis d'une grande frayeur. Et on a compris que cette voix doit retenir l'attention. Mais quelle est la signification de cette voix? Il y a un indice dans ce que les disciples voient par la suite. Ils sont par terre dans cet état de crainte. Jésus les rassure, les disciples lèvent les yeux et ils voient. Ils voient Jésus et Jésus seul. Ce mot « seul » est souligné à la fin du verset 8. Cela met à mal l'idée de trois tente, n'est-ce pas? En clair, Jésus-Christ éclipse Moïse et Élie en gloire. Moïse et Élie, on ne les voit même plus. Et cela cadre exactement avec ce que la voix ordonne. Cette voix qui se fait entendre depuis la nuée ordonne à Pierre, Jacques et Jean d'écouter une autre voix, celle de Jésus. Écoutez-le. Il ne s'agit pas d'un conseil. Il ne s'agit pas d'une recommandation. Il s'agit d'un commandement. Pourquoi cette insistance? Justement parce que Jésus-Christ est supérieur à Moïse et Élie, voire suprême. Trois considérations à cet égard émergent de notre passage. Si nous voulons être plus à même de mourir à nous-mêmes cet été, nous avons besoin de ces informations. Dans quelle mesure est-ce que nous avons compris la suprématie de Jésus-Christ? Trois considérations d'abord. Considérons comment Jésus réunit deux rôles en sa seule personne. Car la voix, depuis la nuée, emploie deux formules de l'Ancien Testament qui évoquent deux fonctions clés qui sont réunies en Jésus-Christ. La formule « Celui-ci est mon fils », cela reprend le psaume 2. Ce psaume-là présente un roi suprême qui allait venir. Ce roi allait occuper le même rang que Dieu lui-même. Ce roi suprême, ce roi divin, c'est Jésus-Christ. Et l'autre formule, en qui j'ai mis toute mon affection, cela reprend Ésaïe 42, qui présente un serviteur qui allait venir. Ce serviteur allait obéir parfaitement à Dieu. Ce serviteur allait souffrir. Il allait mourir. Il allait représenter certaines personnes, de sorte que sa vie parfaite puisse compter pour ces personnes. Il allait se substituer à ces mêmes personnes dans sa mort. Il allait mourir à la place de ces personnes pour pardonner leurs péchés. Ce serviteur souffrant, c'est Jésus-Christ. Et c'est grâce à lui et à lui seul que toi, tu peux être en règle avec Dieu. Si tu n'es pas encore en règle avec Dieu, le moment d'entrer en bonne relation avec Dieu, c'est maintenant. Tu veux que tes péchés soient pardonnés, que tu n'aies plus la perspective d'être condamné par ton Créateur lors du jour du jugement? Eh bien, ce pardon est offert grâce à ce personnage, offert gratuitement, grâce à ce personnage suprême auquel nous avons affaire ce matin, car il a été condamné à ta place, si tant est que tu reconnaisses qu'il est ton roi. Il suffit de te rendre, de te soumettre à l'autorité de Jésus-Christ, de décider de vivre pour honorer Dieu. Voici donc en une seule figure le roi divin et le serviteur souffrant. Il ne s'agit pas de Moïse. Il ne s'agit pas d'Élie, il s'agit de Jésus-Christ. Mais quelqu'un me dit, mais Moïse et Élie étaient tous deux des prophètes importants. Oh, c'est sûr. Mais cela nous amène à notre deuxième considération concernant la suprématie de Jésus-Christ. Car la voix depuis la nuée dit aussi, nous l'avons vu, écoutez-le. Cela reprend Deutéronome 18. Passage qui présente un prophète à venir. Mais ce prophète, oui, il sera comme Moïse, mais ce prophète sera supérieur à Moïse. Ce prophète, c'est Jésus-Christ. Il faut l'écouter. Et Élie, pourquoi est-ce que lui aussi apparaît sur la montagne? Quel est son rapport avec Jésus-Christ? Voici notre troisième considération. Et vous l'aurez remarqué dans la lecture. Les disciples, eux aussi, ont des questions concernant Élie. Il y a une attente comme quoi Élie devra venir, verset 10. Le prophète Malachie avait précisé cela. C'est une juste attente, une bonne attente. Jésus confirme cela, verset 11. Mais le personnage dans Malachie qui devait venir n'est pas littéralement le prophète Élie. Cet Élie-là, celui qui doit venir, n'est pas celui qui avait concurrencé les prophètes de Baal sur le mont Carmel, qui avait été enlevé au ciel, qui avait balisé le chemin de la venue de son successeur Élisée. Non, il est question de quelqu'un qui est calqué sur ce personnage-là, qui ressemble à Élie, un nouvel Élie, si vous voulez, ou un Élie bis. Il se révèle que cet Élie bis et Jean-Baptiste. Et si vous avez des doutes à ce propos, je vous renvoie au dernier verset de notre passage, le verset 13. Or, cet Élie bis, Jean-Baptiste, est un personnage important. Jésus parle de sa grandeur dans le chapitre 11. Il est supérieur à l'Élie précédent et l'une des clés de sa grandeur est expliquée pour nous dans ce chapitre-là, chapitre 11, les versets 13 et 14 que je vais lire. Donc, on est dans Matthieu 11, les versets 13 et 14. Car Jean est venu. Alors, pardon, manque de lunettes. Verset 13 et 14. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Jean-Baptiste, c'est le dernier prophète. Jean-Baptiste, c'est l'avant-coureur, celui qui pointe immédiatement du doigt Jésus-Christ. Jean-Baptiste, c'est celui qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Mais on rebascule sur notre passage en chapitre 17. Et que se passe-t-il ? Verset 12. Jean-Baptiste est mis à mort. Vous vous souvenez peut-être de cela grâce à la prédication de Jonathan dans le chapitre 14 qui a eu lieu il y a pas mal de semaines de cela maintenant. Jean-Baptiste, vous vous souvenez, décapité, malgré son statut de grand prophète. Pourquoi mentionner tout cela? Parce que Jean-Baptiste est l'avant-coureur de par sa mort aussi. Verset 12. Le Fils de l'homme, ça c'est Jésus-Christ, devra mourir également. Et de même que Élie prépare le terrain pour Élisée, Élie bis prépare le terrain pour Élisée bis. Élisée bis, Jésus-Christ, est supérieur à Élie. Est supérieur à Élie bis, Jean-Baptiste, est supérieur à Élisée. Un exemple de sa supériorité par rapport à Élisée, en 2 Rois 4, Élisée multiplie des pains, mais pas à aussi grande échelle que Jésus-Christ. Il donne à manger à 100 hommes avec 20 pains et du blé nouveau. Vous le savez bien, Jésus multiplie des pains à beaucoup plus grande échelle que cela. Supérieur. Jésus-Christ est supérieur à Moïse, supérieur à Élie, supérieur à tout autre personnage. Il est suprême et on l'écoute. On l'écoute en tremblant. Le 30 juin 2017, je suis assis avec mes collègues de l'Institut biblique dans un café au Petit Sablon, centre-ville. Cette fois-ci, le reste est fictif. L'un de mes collègues, Paul Evry, se penche en avant pour me dire « Tu n'as pas oublié ton rendez-vous avec la reine ?» Je réponds « Non, mais je préfère discuter avec son garde du corps. » Ridicule. Ce serait absurde, bien entendu. Et semblablement, ce serait absurde si on négligeait la voix de Jésus-Christ au prétexte d'écouter la voix de Moïse ou d'Élie ou de n'importe qui d'autre. Jésus-Christ est le roi divin et le serviteur souffrant. Il est supérieur à Moïse, il est supérieur à Élie, il est suprême. Et donc, on l'écoute. On l'écoute en tremblant. On l'écoute par rapport à quoi? Eh bien, tout. Mais en particulier, dans le contexte, les disciples doivent comprendre que Jésus devra mourir. Oui, cet épisode sur la montagne les rassure. Il est le roi glorieux. Le moment viendra où la splendeur du règne de Jésus-Christ sera manifeste à tout un chacun. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Il devra d'abord mourir. Et entre-temps, il leur faut mourir aussi à eux-mêmes. Et pour nous, comment est-ce que nous, on écoute la voix de Jésus-Christ pour tout? Et vous pouvez être là en train de réfléchir dans la prière à l'approche d'une nouvelle année académique par rapport à comment vous allez régulièrement, systématiquement vous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, étudier les Écritures et ainsi de suite. Mais par rapport au contexte, c'est semblable que pour les premiers disciples, certes, Jésus est mort, est ressuscité, est monté au ciel, mais son retour pourrait ne pas être pour tout de suite. Et tant que Jésus ne reviendra pas, nous devons vivre pour lui et non pour nous-mêmes. Nous mourons à nous-mêmes et nous l'écoutons par rapport à cela avec tremblement. Et ce sera difficile. C'est lassant même de mourir à nous-mêmes, jour après jour après jour. Cet été, accepter de tout perdre, mourir à nous-mêmes, y compris lorsque nous serons en vacances, ce sera difficile. Il y a 10 jours, j'étais en Suisse et une jeune stagiaire, en l'occurrence dans une église en France, m'a posé cette question. Qu'est-ce que tu réponds à un croyant qui dit « Je suis fatigué de vivre comme ça, vivre pour le Christ, lutter contre le péché. » Qu'est-ce que tu dis? J'ai répondu sur le champ en disant que j'aurais envie d'avoir une longue conversation pastorale avec la personne afin de gratter un peu pour comprendre ce qui donne lieu à la remarque. Mais nous pouvons toutes et tous comprendre que c'est fatigant. Nous avons régulièrement besoin d'être boostés. Et donc, nous fermons les yeux. Nous nous figurons le visage resplendissant. Nous figurons les vêtements qui sont lumineux. Nous nous figurons la nuée lumineuse. Nous entrevoyons la gloire de Jésus, notre roi. Nous nous rendons compte de sa suprématie. Nous écoutons sa voix en tremblant. Nous avons le courage et l'élan nécessaires pour nourrir à nous-mêmes lorsque nous nous rendons compte de qui il est. Nous continuons à accepter de tout perdre, car nous le savons. Notre roi suprême, il revient. Il revient. Il revient dans la gloire. Amen.